tour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Achowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs. Il va y avoir du sport aujourd'hui. Autour de l'exposition Corps et Sport à la Cité des Sciences à Paris, nous allons nous demander quels sont les effets du sport, de tous les sports, sur le corps des athlètes de haut niveau, comme des simples amateurs. Pourquoi c'est si bon pour la santé, physique et psychique? Quels processus physiologiques et psychologiques sont à l'origine du mouvement? Quelles interactions entre le corps et l'effort, le mental et la réussite ou l'échec? Que se passe-t-il dans le cerveau des champions? Est-il possible d'améliorer encore leur performance et jusqu'où? Avons-nous atteint nos limites? Comment la recherche investit aujourd'hui le terrain sportif, biologique, éthique, technologique et psychologique? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités, l'ancienne championne d'escrime Julie Doron, aujourd'hui enseignante-chercheuse en psychologie de la performance, qui a dirigé le superbe catalogue de cette exposition Corps et Sport, et Julien Shipman, doctorant à l'Institut de recherche biomédicale et épidémiologique du sport, qui travaille notamment sur les sports paralympiques. Autour de la question, quels effets le sport a-t-il sur notre corps et sur notre mental? Bienvenue sur le terrain. Bonjour Julie Doron.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager quelques-unes des pistes ouvertes dans l'exposition Corps et Sport à la Cité des Sciences à Paris et dans ce formidable catalogue très complet qui l'accompagne et que vous avez dirigé aux éditions de la Martinière. Amis auditeurs, j'en profite pour vous signaler au passage que nous avons un exemplaire à vous faire gagner, avis aux amateurs. Julie Doron, donc vous êtes une ancienne sportive de haut niveau en escrime au sabre, aujourd'hui enseignante-chercheuse en psychologie du sport, vous venez d'être nommée maître de conférences à l'UFR STAPS de l'Université de Nantes. Après avoir mené vos recherches à l'INSEP, l'Institut National du Sport et de l'Expertise et de la Performance. Et vous êtes également, Julie, présidente de la Société de Psychologie du Sport. Est-ce que c'est votre propre pratique athlétique de l'escrime qui vous a incité à travailler sur les processus psychologiques impliqués dans la performance sportive? C'est quelque chose qui vous a peut-être manqué au cours de votre carrière de sportive?
Alors, ma carrière est un peu loin, mais je vais revenir là-dessus. C'est vrai que, alors moi j'ai fait des études à la faculté des sports, donc je menais ma pratique de l'escrime en compétition en parallèle, et donc j'ai toujours été passionnée par le sport, donc ça depuis le collège, le lycée, donc ça datait pas du sport de compétition. Et quand je me suis retrouvée sur les bancs de la fac en STAPS, et ben on a de la chance d'avoir une approche vraiment pluridisciplinaire, donc on a de la sociologie, on a de la physiologie, on a de la biomécanique et de la psychologie, et donc pas mal des thématiques qui étaient abordées dans mes cours faisaient écho à ma pratique de sportive. Alors, non pas sur la question de combler quelques carences, mais plutôt vraiment dans ce souci, dans cette curiosité de me perfectionner. Et donc à l'époque où je pratiquais, malheureusement, c'était des questions qui étaient peu évoquées par nos entraîneurs. Et donc j'ai fait mes propres recherches, et ce qui m'a amené à finalement le creuser dans le cadre de projets de recherche plus structurés.
Parce que les chercheurs, c'est vrai, investissent le terrain, alors pour améliorer le matériel, les technologies, les performances physique, mais aussi pour mieux comprendre et apprendre de nos capacités mentales. Et de toute façon, les deux sont liés.
Les deux sont liés, tout à fait. C'est très difficile. Enfin, on a des fois un peu cet héritage d'avoir séparé les choses, et je trouve qu'aujourd'hui, on essaye plutôt de conduire des projets pluridisciplinaires, parce que ces questions-là, et notamment dès qu'on va aborder la question du stress, de la fatigue, sont fortement interreliées. Donc, on ne peut pas parler de fatigue sans parler de fatigue mentale, mais aussi de fatigue physiologique. Donc, c'est vrai que c'est des questions qui... ont plutôt pour vocation de ne pas être traités séparément. Voilà.
Et qui en plus peuvent rejaillir, on le verra, sur la société tout entière, hein, hors du sport et hors du sport de haut niveau. Bonjour Julien Shipman.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes doctorant à l'INSEP au département de l'IRMES, l'Institut de Recherche Biomédicale et d'Épidémiologie du Sport, où vous travaillez notamment à collecter les données épidémiologiques dans les sports paralympiques. Alors là encore, c'est un domaine ou un champ de recherche qui s'ouvre, enfin le handisport qu'on connaît assez mal. Finalement, on a assez peu de données sur les bienfaits du sport de haut niveau chez les athlètes handicapés.
Alors c'est vrai que toute la question est partie dans un premier temps des athlètes valides, où aujourd'hui on a vraiment plein de littérature scientifique sur le domaine. Et c'est vrai que pour l'instant, le domaine du handisport et du paralympique a été très très peu exploré. Et on a pu voir que c'est un mouvement qui a commencé après les Jeux de Pékin en 2008. Et donc depuis 2008, il commence à y avoir beaucoup de données justement sur les performances de tous ces athlètes-là, et on cherche justement à comprendre les facteurs de la performance de ces athlètes-là, comment, par type de handicap, quelles vont être leurs capacités. Et derrière, quand on sait l'ensemble des bénéfices qu'apporte une activité physique ou sportive chez les valides, on sait forcément que ça va être la même chose chez les athlètes en situation de handicap. Donc derrière, voilà, on va essayer de comprendre un petit peu tout ce domaine-là.
Et puis l'idée, c'est aussi quand même de changer un peu de regard sur ces sportifs, avec tous les guillemets possibles différents, mais en tout cas par rapport à l'exploit qui nous...
Vis-à-vis des athlètes valides, ce que font les athlètes handisport, c'est quand même incroyable, parce qu'ils ont à gérer leur handicap, gérer le voyage pour se déplacer, ce qui n'est pas toujours évident, gérer derrière, par exemple, leur propre handicap. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau de leur performance, elles sont extraordinaires et aujourd'hui, malheureusement, peu reconnues médiatiquement.
Et au niveau du stress, on y viendra aussi, parce que j'imagine qu'il doit faire face à sacrément de stress. Alors on va commencer d'abord, avant, même si les deux ne sont pas séparés, avant de s'arrêter sur le mental des sportifs, on va commencer par s'intéresser aux effets physiques, physiologiques du sport sur le corps, avec une première question du professeur Albert Goldbetter. Il est chronobiologiste, il était récemment notre invité pour son ouvrage sur les rythmes du vivant. On l'écoute.
Eh bien, je pense à une question qui serait liée à la pratique régulière de l'exercice physique et au rythme physiologique, et en particulier le rythme cardiaque. Il semble que le rythme cardiaque, la fréquence du rythme cardiaque diminue lorsque la personne qui s'exerce physiquement s'entraîne pendant un certain temps. Quels sont les mécanismes qui conduisent à cette altération, à ce changement de fréquence du muscle cardiaque? Ça, c'est une question que je trouve particulièrement intéressante.
Quelle est la réponse, Julien Shipman? Comment muscler son cœur?
Alors, il y a plusieurs types d'adaptations, mais c'est vrai que l'adaptation cardiaque, on voit que quand on pratique régulièrement une activité physique ou sportive d'aérobie, c'est-à-dire de la course à pied ou de la marche à rythme modéré, eh bien, on va avoir des adaptations cardiaques, c'est-à-dire que, par exemple, le cœur, donc la masse du cœur va grossir, les cavités également vont s'élargir, ce qui fait qu'à l'effort, donc on sera beaucoup mieux adapté à l'effort, et ça va se répercuter directement au repos, parce que quand j'aurai un rythme cardiaque au repos de 60, mon cœur peut-être aura moins de sollicitations parce que je l'aurai habitué durant l'exercice à travailler. Voilà. Et donc, c'est une des adaptations possibles. Après, il y en a plein d'autres. Il y a des adaptations périphériques et nerveuses. On parle souvent du nerf vagal, qui justement...
Le nerf vagal, si important. Donc, on découvre l'importance, qui relie le cerveau.
Exactement. Donc, il y aura aussi des optimisations au niveau nerveux de ce nerf-là. Donc, il y a plein de réponses possibles. Celle qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est vraiment celle du muscle cardiaque, le cœur, qui change avec l'effort.
Le sport transforme le corps, Julie Doron?
Alors, oui, ça, je pense qu'il le transforme. Après, moi, je suis plus, spécialisée sur les processus qui ne sont pas forcément visibles. C'est-à-dire que très souvent, on va avoir des transformations qui s'opèrent musculairement, des corps qui vont changer. Sur les processus psychologiques, on est plus dans l'invisible, et c'est ce qui, des fois, rend un peu notre pratique ou notre discipline un peu opaque pour le grand public ou pour même les acteurs du monde sportif.
Oui, muscler le mental, ça ne se voit pas trop.
Non, ça ne se voit pas, mais il y a quand même quelques indicateurs. Et on en parle beaucoup, notamment sur la concentration. On voit des visages des fois qui sont plus fermés ou des regards qui sont déterminés. Donc on a quelques indicateurs qui quand même nous renseignent au niveau du comportement, qui se passe des choses. Mais on est obligé d'aller creuser un peu plus dans l'implicite pour savoir ce qui se joue.
Alors dans la série Le sport, c'est bon pour la santé. Dans la série de ce qui se voit, c'est vrai aussi quand on est malade, même gravement malade. Comme l'a prouvé le docteur Mackenzie, c'est un médecin oncologue canadien. Il a été le tout premier à démontrer les bienfaits d'une pratique sportive appropriée, en l'occurrence l'aviron, pour les femmes atteintes de cancer du sein, extrait d'une vidéo de l'Inserm.
Après plusieurs mois d'études cliniques, il constate les bienfaits d'une activité physique régulière et adaptée. Réduction de la fatigue, renforcement musculaire, amélioration de la qualité de vie, mais également diminution du risque de récidive. 25 ans plus tard, et bien que l'idée puisse paraître contre-intuitive, plus de doute. Activité physique et cancer font bon ménage, à la fois durant et après le traitement. Cela s'expliquerait par différents mécanismes, dont un meilleur contrôle du poids, une meilleure régulation de certaines hormones comme l'insuline, et de certaines molécules pro-inflammatoires favorisant le développement tumoral. Mais ce n'est pas tout. Le bénéfice de l'activité physique est également reconnu pour beaucoup d'autres maladies chroniques, telles que le diabète de type 2, l'infarctus du myocarde, la lombalgie chronique ou encore l'asthme. Alors, mesdames et messieurs, à vos baskets.
À vos baskets, Julie Doron, d'autant que un rapport de l'INSERM sur les effets du sport sur la santé vient de sortir. Il est en ligne, nos auditeurs internautes peuvent le consulter. Et ça prouve vraiment que le sport est bon pour la santé, même quand on est malade ou en convalescence, ce que l'on ne savait pas auparavant.
Alors, ce qui est très intéressant dans ce rapport, c'est surtout les recommandations précisées. Parce qu'il ne suffit pas juste de prendre ses baskets. Je suis moins spécialisée de ces questions-là, mais n'empêche que c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir une pratique adapté à sa problématique de santé et puis à ses besoins, à ses capacités du moment.
Il ne s'agit pas de s'épuiser, c'est pas du tout ça le propos.
Pas du tout. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui tous ces chercheurs ont vraiment réussi à préciser des recommandations à la fois dans ce qu'on appelle la dose d'activité qu'il nous faudrait et puis le type. Et ça m'évoque l'extrait que vous avez sorti aussi que avec l'escrime on peut aussi toucher aussi la question de l'activité physique chez des personnes atteintes de cancer du sein, notamment avec la mobilité du bras. Il y a
de travailler la mobilité du bras atteint du côté du cancer.
Donc pour les femmes qui sont atteintes de cancer du sein, cette pratique-là peut être bénéfique. Donc il y a des pratiques qui vont être ciblées par rapport justement aux effets que l'activité peut...
J'ai l'impression, en vous entendant, puis en lisant ce très beau catalogue corps et sport, que l'adaptation, c'est un mot très très important, et c'est peut-être ça qu'apporte le sport. On pense évidemment tout de suite dépassement de soi, effort, mais l'adaptation à la situation, au monde, au sport,
je pense qu'on est en perpétuelle adaptation. À partir du moment où on sort de chez soi, même quand on est chez soi, on est en perpétuelle adaptation. Alors moi, la question qui m'intéresse le plus, c'est comment on s'adapte quand on est face à une situation qui, à un moment donné, va dépasser nos ressources du moment, et notamment ce qu'on appelle le stress. Et donc moi,
le stress, c'est comment s'adapter quand c'est beaucoup trop, finalement, ce qu'on nous demande par rapport à nos capacités. C'est évidemment le cas de chacun des sportifs de très haut niveau en championnat.
Et de tout le monde.
Et de tout le monde tout le temps, bien sûr.
Mais cette question du stress, en fait, moi, je la vois très positivement. C'est-à-dire que l'adaptation, le stress nous permet de nous adapter. Et que, évidemment, à certains moments, quand les ressources vont être insuffisantes ou quand les contraintes d'une situation vont être trop pesantes par rapport aux ressources qu'on possède, c'est là où on peut ressentir, des fois, de manière un peu plus négative, les effets du stress. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les sportifs de haut niveau s'adaptent à des contraintes qui sont très fortes, et notamment sur leur corps, sur leur mental, avec des environnements où il y a beaucoup de pression.
Et comment ils s'adaptent justement, les meilleurs?
Ils ont des très bonnes stratégies. Alors,
étudiez leurs stratégies pour après peut-être leur en proposer d'autres aussi.
Exactement. En fait, on étudie le type de stratégies qui vont être utilisées dans ces moments-là, enfin dans ces situations spécifiquement, et on regarde finalement l'incidence de ces stratégies-là sur la performance ou par exemple sur des critères qui seraient en lien avec la performance. Savoir s'ils s'adaptent de manière adaptée.
Et alors, parmi leurs stratégies, ou ce que vous pouvez recommander aussi par rapport au stress, parce que vous l'avez dit, ces situations, c'est vraiment au maximum que le vivent ces athlètes de haut niveau, mais nous, on les vit un peu parfois dans nos vies quotidiennes aussi, donc on pourrait s'en inspirer.
Oui. Alors, très souvent, moi, je prends le cas d'une situation où vous êtes coincé dans les bouchons, qui nécessite une adaptation, vous avez un rendez-vous adapté, et là, vous allez voir toute la palette de stratégies que vous pouvez utiliser, qui vont de toutes les personnes qui sont autour de moi, je vais ouvrir la radio et puis prendre mon mal en patience. Donc toutes ces stratégies-là, elles appartiennent finalement à des fonctions, ou en tout cas, elles servent des fonctions d'adaptation différenciées. Et notamment, on va retrouver toutes des stratégies qui sont en lien avec ce qu'on appelle la tâche, ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est typiquement dans la résolution de problèmes. Mais à certains moments, quand on ne contrôle pas la situation ou qu'on ne peut pas la contrôler, il ne sert pas vraiment à quelque chose de continuer finalement à engager ces ressources-là. Donc on va être plutôt sur des stratégies de régulation des émotions qui sont en lien avec la situation qu'on est en train de vivre. Et puis il y a des stratégies que nous on appelle des stratégies de désengagement de la tâche et qui sont des stratégies qui nous amènent à nous désengager de l'objectif ou de ce qu'on est en train de faire.
Désengagement de la tâche, c'est étonnant, c'est tout à fait contre-intuitif quand on pense aux sportifs, il faut qu'ils se désengagent du record qu'ils veulent battre.
Oui, alors typiquement, je vais donner un exemple, je pense qu'il peut être parlant pour pas mal de personnes, c'est l'athlète qui va casser sa raquette au tennis. Donc là, on est dans une stratégie d'adaptation qui est peu efficace parce que, en général, quand on est dans cette situation-là, on se fait gagner par les émotions. Et donc, en fait, ces émotions-là vont à ce moment-là nous détourner ou ne pas être appropriées à ce qu'on est en train de
réaliser. Elles vont nous dépasser complètement.
Exactement. Mmh. Donc, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur des stratégies qui visent à ce qu'on reste finalement engagé sur l'objectif qu'on est en train de poursuivre dans la situation.
Oui, je le disais, ça nous intéresse tous. Et d'ailleurs, les grands sportifs, vous le dites aussi dans ce catalogue, suivent aujourd'hui des cours de méditation. Il y a plein d'approches aujourd'hui pour arriver à réguler les émotions, se détacher quand il faut, être là quand il faut et être très fixé sur son, en même temps toujours sur ce qu'on veut, sur son objectif à soi, c'est
oui.
ça ?
Alors la définition des objectifs, elle est très forte. Quand on va discuter avec les sportifs, le résultat est toujours l'objectif principal, ou en tout cas c'est celui qui est, on va dire, très implicitement connecté à la compétition. Et puis quand on travaille sur cette question-là avec les sportifs, on va fixer très rapidement ce résultat-là, ou en tout cas le résultat qu'on veut atteindre, pour travailler sur le comment. Et c'est surtout ça qui est important, parce qu'à certains moments, le résultat vient aussi être une source de stress en tant que tel, et nous omnubiler et nous empêcher finalement de se focaliser sur ce qu'on a à faire dans le moment.
Donc c'est pour ça. Il faut lâcher
l'objectif de résultat.
L'objectif de résultat et les échecs. Alors, encore autre chose qui bouscule un peu nos idées reçues. Les échecs, c'est important pour les sportifs de haut niveau. C'est quand même ça qui permet aussi... Enfin, en tout cas, il faut faire avec ces échecs et en apprendre quelque chose.
Alors, moi, ce que je dis en rigolant, parce que je l'ai connu en faisant de la compétition, on perd plus souvent que ce qu'on gagne. Et même quand on est très, très grand champion dans sa discipline. Donc, c'est vrai que l'échec, de toute façon, fait partie du sport. Et très souvent, on a des sportifs et même des jeunes sportifs qui développent très tôt une intolérance à l'échec. Parce qu'on est dans une société qui valorise la performance et donc qui a une intolérance à l'échec. Mais malgré tout, avec cette intolérance à l'échec, on oublie de décoder le message dont il est porteur. Et c'est tout un travail qu'on fait aussi avec les sportifs pour apprendre à faire avec. Alors, c'est pas de la complaisance vis-à-vis de l'échec. C'est-à-dire que si vous dites à des sportifs de haut niveau, c'est pas grave, ça reste grave, on s'entraîne pas deux fois par jour pour ça. Mais par contre, c'est justement de réussir à se distancier du résultat pour revenir sur ce qui est essentiel. Et donc, très souvent, on se rend compte que quand on est dans des situations d'échec, on a des émotions associées comme la frustration, la honte, la culpabilité, qui, dans ces moments-là, nous détournent, encore une fois, en termes d'attention, de ce qu'on a à faire dans le moment. Donc nous, on va travailler avec les sportifs pour identifier ces mécanismes-là de manière, je dirais, raccourcie, pour qu'ils puissent se reconcentrer sur ce qui est utile dans ces moments-là. Donc en gros, réussir à analyser ce qui s'est passé et puis à se reconcentrer sur ce qui est important dans le moment.
Comment le sport peut aider à se reconcentrer, puisque le sport, c'est décidément bon pour tout le monde, même pour les stars comme Claude François, extrait irrésistible du film Podium avec Benoît Poulvorde en sosie de Claude François.
Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu ?
J'ai pas révisé là.
Ah, parce que tous les matins il faisait son
petit déjeuner ?
Petit déjeuner, je t'en foutrais moi. Anne, parce que tous les matins il faisait son.
Son lit ?
Son jogging, bande de buse.
Son quoi ?
Son jogging. Faut que vous sachiez, les filles, que quand les Delpech, là, les Dèves, les Sardou, rentraient de boîte de nuit pétés comme des coins, Claude, des potrons minés, il était ici et yoguait. OK ? Et ça, c'est un exemple à suivre. Je ne veux pas d'alcool dans cette team. Bien dans les têtes, hein ? Magnolia !
Voilà !
Désolée, mais on n'a pas résisté au jogging de Benoît Poulvorde sur RFI. Ça vous parle, ce jogging-là, Julien ?
Un mélange de yoga et de jogging, c'est une activité physique, donc ça peut être que bénéfique pour la santé.
Autour de la question, quels effets a le sport sur le corps et sur le mental ? Comment être équipé et bien équipé ? On écoute le rappeur Que Black, très écouté par nos champions du monde de football. On est équipé.
Bon, maillet musique. On est équipé, ça kique surtout dans le rap, je rentre sans ticket. Des fois, je veux pas m'appliquer, mais l'esprit est large comme les yeux d'un BT. T'as le Philippe plein, j'ai le Liboumou plein. T'as vu, on est plein, donc tu portes plainte. Ça paie comme Jaja, ça coupe la vodka au gingembre. Je foque toujours les gens, et quand je suis au sud, je pense à mes yan-yan. J'fume et j'te passe à tabac. Oui, je te tabasse. La seule chose que tu pourras faire, c'est ruminer sous ta barbe. NASA, qu'elle inspire, Mama, qu'elle inspire, Papa, qu'elle inspire. Même en costard, je me roule un stick. Monument vivant, yeah, monument vivant. Monument vivant, yeah, monument vivant. On est équipé. On est quitte, esquive les Nando. Problème de Mukanda. Ils ont les Kanda, on nous écoute de Kray jusqu'au Ghana. Ils nous dongola, ben ça fait comme un Congolais. On arrête les temps, comme Zadio Congolo. On est plus bon que, bah oui. On est plus loin que, bah oui. La gueule me trouve trop mimi. Car je suis parfumé jusqu'au point de Ginini. Hey ya yeah, j'ai plus de respect pour les yaya. Hey ya yeah. J'ai plus de respect pour les yaya. Hey yaya, hey yaya. J'ai plus de respect. Hey yaya, hey yaya. J'ai plus de respect.
On équipe et on est équipé. Le rappeur Que Black sur RFI, c'est un des tubes que nos footballeurs se sont passés en boucle avant et pendant la Coupe du Monde. Nous sommes en compagnie de la chercheuse en psychologie du sport, Julie Doron, qui a dirigé le catalogue Corps et Sport, qui accompagne l'exposition du même nom à la Cité des Sciences. Catalogue super dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, je le signale au passage. Nous sommes également en compagnie de Julien Shipman, qui étudie les données épidémiologiques des sports paralympiques autour de la question des effets du sport sur le corps et sur le mental. Il faut aussi être équipé côté mental, on l'a dit, pour réaliser les meilleures performances. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage du champion d'aérophilie Venceslas Dabaya, expliquer qu'on a autant besoin de la force de son mental que de ses muscles pour soulever 300 kilos à bout de bras.
Il faut toujours essayer de visualiser la réussite dans la tête. Il y a toujours cette partie où on essaie toujours de se connecter en réalisant le geste dans la tête avant même de le réaliser sur un plateau. Il faut toujours être en connexion avec sa charge, pouvoir quantifier la force que nous allons émettre selon la charge. Que nous ayons 20 kilos, que nous ayons 40 kilos, que nous ayons 150 kilos, peu importe. Ça demande toujours quelques petites secondes où on essaie vraiment de réunir nos capacités motrices et mentales pour pouvoir réaliser la charge.
Venceslas Dabaya, extrait du documentaire sportif presque parfait, haltérophile, champion, hein, il a été champion médaillé d'argent au championnat d'Europe d'haltérophilie en 2012, et il montre en fait que même un haltérophile, j'ai envie de dire, il a plus besoin presque de muscler son mental que ses muscles, enfin en tout cas il a besoin des deux, Julien.
Alors clairement, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, et je crois que de toute façon, le résultat final, réussir à soulever une haltère, donc c'est autant une capacité physique que mentale.
Mais donc, c'est pas immédiat, c'est pas intuitif, on a l'impression que c'est une capacité physique uniquement, surtout dans ce genre de sport.
Non, mais je crois qu'en plus, il en parle très bien, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'imagerie mentale, et voilà, il se voit avant la compétition soulever la charge, comment il va la soulever, quel sera le geste parfait pour y arriver, et je crois qu'il a très bien réussi, parce qu'il a une très belle carrière, et aujourd'hui, il est entraîneur du Pôle France en haltéro, donc oui, je crois que le mental, c'est une discipline qui est complètement intégrée à la performance aujourd'hui et qu'il ne faut pas oublier. Après, c'est sûr que c'est encore difficile de la quantifier parce qu'on ne voit pas forcément derrière les résultats qui peuvent être peut-être physiques ou parce que voilà, les haltérophiles, on va dire qu'ils ont déjà un physique qui est vraiment, on va dire, adapté à leur performance, quoi. Alors que le mental, aujourd'hui, ben, on ne le voit pas. Mais pourtant, ça fait partie intégrante de la performance.
Oui, lui, clairement, il a un mental aussi musclé que son corps. Il parlait effectivement de visualisation. Ce sont ce genre de techniques aussi, Julie Doron, qui sont importantes. C'est important de faire travailler. Enfin, je crois que même quand on ne fait pas, ce sont des spécialistes du cerveau qui le montrent, même quand on ne fait pas le geste, mais qu'on pense au geste,
tout à fait.
Et ben, c'est une manière de s'entraîner.
Alors, on a eu de la chance, dans l'ouvrage, on a deux chercheurs qui ont contribué, Claire Calmès et Claude Delpech, sur cette question-là, et notamment qui montrent cette partie invisible et tout le rôle du cerveau et des processus mentaux dans, ben, dans la capacité motrice finalement de notre cerveau. Et ce qui est intéressant et ce que je retiens, moi, c'est que ces capacités de visualisation montrent que lorsqu'on imagine, lorsqu'on pense, lorsqu'on voit un geste, finalement ça active des zones du cerveau qui sont proches, enfin qui sont les mêmes zones que lorsqu'on active le geste en vrai. Donc ça, c'est des techniques qui sont utilisées évidemment par les sportifs et ce qu'on appelle la répétition mentale ou l'imagerie motrice qui permet vraiment, alors on peut perfectionner un geste au travers de ces processus-là. C'est des processus, comme le disait Julien, qui sont fortement impliqués, ils ne sont pas dissociés, c'est-à-dire que dès qu'on voilà, on va soulever une barre, donc comme dans le cas de l'extrait, c'est vraiment des processus qui sont associés au geste. Et ces processus-là peuvent aussi être très utiles, notamment auprès des sportifs blessés. Et c'est tout le travail que Claire Calmès montre sur justement tout ce travail qui peut se faire dans des périodes où on ne peut pas réaliser le geste ou je dirais l'activité motrice en tant que telle.
On peut s'entraîner mentalement. Mais on peut s'entraîner.
Et donc là, il y a des vrais bénéfices pour des sportifs blessés. Et on voit des retours à la compétition qui se font vraiment de manière plus rapide et plus efficace pour ces sportifs. Pour certains, en tout cas dans les témoignages qu'elle nous a fait partager, ils disent de ne pas avoir eu l'impression de s'être arrêté. Donc c'est assez impressionnant.
Est-ce qu'on s'en doutait de ça? Est-ce que c'est nouveau, ces recherches? Parce que savoir que s'entraîner, évidemment, physiquement avec son corps, c'est fondamental, mais qu'on peut aussi s'entraîner rien qu'avec la tête.
Non, je pense que c'est des travaux qui datent un peu, c'est parce que la psychologie cognitive a quand même quelques années, donc je ne vais pas être très précise dans les dates, mais c'est des choses dont on avait connaissance, mais qui étaient peut-être plus conduites en situation de laboratoire, et aujourd'hui, on arrive à le transposer à des situations plus écologiques, et notamment sur les terrains sportifs. Et il y a aussi un exemple avec l'haltérophile qui montre que aussi chez les experts, ces processus-là sont plus optimisés que chez des non-experts.
D'où l'intérêt de travailler avec des sportifs de haut niveau ou des grands athlètes, parce qu'au fond, c'est eux qui au maximum incarnent tout ce que vous cherchez à comprendre.
Voilà. Et alors, donc ces processus-là peuvent être évidemment, je dirais, possédés par les sportifs et ces sportifs-là peuvent être experts dans ces domaines-là. Et puis, avec l'avalanche, je dirais plutôt intervention en psychologie du sport ou préparation mentale, on peut aussi optimiser ces habiletés-là au travers de techniques comme la visualisation ou l'imagerie mentale. Et donc là, on peut avoir ces fonctions d'imagerie motrice, mais aussi, et dans l'exemple, il en faisait écho, de se visualiser en train de performer, pour travailler sur la confiance, sur la motivation.
De se visualiser quoi, en train de faire le geste parfait.
Voilà, exactement. Ou en tout cas pour se donner de la confiance. Donc les sportifs peuvent aussi avoir recours à ce type d'image.
Faut-il visualiser pour avoir un geste parfait? Les grands sportifs apprennent en tout cas à imaginer. Ils s'entourent aussi de biomécaniciens pour approcher cette perfection du geste. Je propose une petite réflexion et une petite question autour du golf, que nous enseigne le golf sur notre corps. Écoutons le professeur de biomécanique Philippe Rouche. Lui, il étudie le swing, mouvement typique du golf, à l'Institut de biomécanique humaine des arts et métiers. Et il explique ce qui l'intéresse tant dans le swing de golf. Il explique à notre reporter décidément tout terrain, Charlie Dupiau.
En fait, faire un swing de golf nécessite d'activer quasiment l'intégralité de ses muscles sur un mouvement 3D qui doit être très coordonné, dans un timing qui est très court, c'est que 0,3 secondes. Et on se rend compte qu'être capable de faire un beau swing de façon répétable nécessite un très grand contrôle et une très grande maîtrise. Moi qui connaissais mal ce sport avant de l'analyser, vraiment j'étais surpris par la précision que sont capables de donner les gens à un haut niveau. Donc ils sont capables, voilà, à 300 mètres, d'être précis au mètre près.
Et alors par rapport à la performance, donc qu'est-ce qu'on peut améliorer encore en golf?
Typiquement, pour vous donner un ordre d'idée, un golfeur professionnel est capable de faire aller la tête du club, vous savez, la grosse masse qu'on voit au bout du manche, à plus de 55 mètres par seconde, ce qui est une vitesse considérable. Et on sait que la vitesse de cette tête de club, elle est vraiment liée à la performance. Donc tout l'objet est d'être capable de réaliser le geste qui amènera à la plus grande vitesse de club au niveau de l'impact. Donc il y a des progrès qui peuvent être faits sur le mouvement du golfeur, sur son équipement. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire.
Et alors comment vous travaillez justement concrètement?
Le problème, c'est qu'on mesure tout ce qu'on peut. Voilà, donc on va mesurer le mouvement en 3D des joueurs. On met des petits marqueurs, des petites billes qu'on vient coller à même la peau des gens, on en met à peu près une centaine, et ces billes vont être traquées dans l'environnement 3D. Donc on a en fait le mouvement du golfeur en 3D, Et si beaucoup de vos auditeurs utilisent des caméras, donc des caméras normales, c'est à peu près 25 images par seconde. Nous, on prend au minimum 300 images par seconde. Parce que quand on est sur des sports qui ont des temps de réalisation très très courts, si vous n'avez pas assez d'images, finalement, vous voyez le début du swing et la fin. Et entre les deux, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Donc on a le mouvement. Ensuite, on a l'activité musculaire. On vient coller sur la peau ce qu'on appelle de l'EMG, de l'électromyographie, qui mesure finalement comment les muscles vont s'activer, de manière à comprendre, lors de la réalisation du geste, quelle était la séquence dans laquelle les muscles se sont activés pour réaliser le geste considéré. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient construire un modèle 3D du squelette du golfeur et qui nous permet, avec deux paires de radios, de reconstruire le corps du golfeur en 3D. Donc on a du coup une précision sur ce qui se passe à l'intérieur du golfeur qui est vraiment unique au monde. On est les seuls à le faire et qui nous permet, quel que soit le sport qu'on va analyser, de voir comment les articulations vont fonctionner et est-ce qu'il y aurait des optimisations possibles sur ce fonctionnement-là.
Et en fait, c'est vraiment la recherche appliquée à l'individu.
C'est exactement ça. La biomécanique, c'est la recherche appliquée à l'individu. C'est faire de l'ingénierie du corps humain. En fait, vous et moi, on est très différents les uns des autres. On a un squelette, on le sait tous, mais l'architecture de ce squelette, même le nombre d'os, peut être différent d'un individu à un autre. La forme des muscles est différente, les timings d'activation sont différents, et vous le savez, faire un mouvement en général nécessite l'activation de plusieurs muscles, de façon plus ou moins synchronisée, même ça est différent d'un individu à l'autre. Donc d'arriver à comprendre finalement comment les gens mettent en œuvre leur système musculo-squelettique pour réaliser un mouvement, nous permet de mieux comprendre finalement comment l'homme est capable après de bouger dans l'espace. Et toutes les méthodes qu'on va développer dans la biomécanique du golf, bien entendu, on va les décliner, quel que soit le sport confondu, même quelle que soit l'activité. On se sert, si vous voulez, du golf comme illustration, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'être humain, en fait.
Vous voulez réagir, Julie Deroy, à cet éclairage biomécanique du professeur Philippe Rouge, qui rappelle bien que ce qui l'intéresse, c'est le corps humain dans son entier. Il me semble que vous, c'est pareil, mais vraiment dans son entier, hein, c'est ça ?
Oui, je voudrais juste compléter, parce que sur justement des sports où le geste ou la gestuelle va nécessiter une réalisation, je dirais, parfaite, même si on sait que finalement, il n'y a jamais exactement le même geste. Ce qui est intéressant, c'est que nous, avec les sportifs, sur l'aspect psychologique, on va travailler aussi sur le fait qu'à certains moments, nos pensées ou nos émotions peuvent venir parasiter ces gestes-là. Et donc, ce qui explique qu'à certains moments, vous avez des sportifs qui maîtrisent complètement leur gestuelle et qui, en situation de compétition, se retrouvent à ne plus le savoir le faire ou à le réaliser.
Ils perdent un peu le stress, les fleurs fait perdre un peu
de leur automatisme. Donc très souvent, on se rend compte, et en tout cas des études ont démontré, que lorsque on mettait des points d'attention sur le geste, c'est-à-dire comment on va le réaliser, c'est souvent comme ça qu'on dégrade les automatismes. Donc nous, on va beaucoup travailler sur la question de savoir sur quoi l'athlète va devoir porter son attention et puis diminuer tous les éléments qui pourraient parasiter ces gestes-là.
Ah, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'il porte son attention sur quelque chose qu'il sait faire vraiment. Non. Ce qu'il sait faire, voilà. Il le fait automatiquement.
Typiquement, si je vous dis tout à l'heure, et ne le faites pas parce que ça peut être dangereux, mais les auditeurs pourraient tester aussi. C'est-à-dire que si je vous demande de descendre les escaliers sans réfléchir, vous allez le faire de manière très naturelle. Si je vous demande de regarder à comment vous le faites, vous risquez de chuter.
Terrible, ouais.
Donc là, quand on a des gestes, notamment chez des experts qui sont très automatisés, en fait, en situation de compétition et en situation de stress, on se rend compte qu'à certains moments, il y a des émotions ou des pensées, ce que nous, on appelle des distracteurs, qui vont venir perturber ces automatismes-là. Donc, on va travailler avec les athlètes sur vraiment les aspects de régulation de l'attention pour favoriser l'automatisme et que le geste puisse être le plus libre possible.
Finalement, évidemment que notre psyché est presque plus complexe que notre corps. Julien, vous voulez réagir à cet éclairage aussi biomécanique?
Alors moi, c'était sur l'apport de la technologie aujourd'hui. On peut voir qu'en fait, on est de plus en plus soumis à des capteurs qui vont nous permettre d'améliorer la performance derrière. Et donc là, il parle très bien de la combinaison 3D qu'on va mettre sur le golfeur, mais également sur le club, pour capter justement les mouvements. Et voilà, ces capteurs vont nous fournir aujourd'hui, mais une quantité de données incroyable. Et donc là, derrière, on serait peut-être justement en mesure, en fonction des facteurs qu'on va identifier, être en mesure justement d'améliorer la performance grâce à tous ces capteurs-là. Après, encore une fois, il faut réussir à identifier quels sont les réels facteurs de la performance en golf, donc sur le swing. Et c'est là où justement il faut faire attention sur quel type de mouvement on va analyser. Et c'est en soi, je trouve que le chercheur et le biomécanicien, voilà, aura un rôle prépondérant sur l'analyse du geste du golfeur.
Et puis vous parlez de technologie, d'équipement. Vous-même, vous travaillez, Julien Schipman, enfin, vous menez des recherches sur les données épidémiologiques en handisport, donc chez les champions paralympiques. Là encore, c'est pour comprendre comment on pourrait les aider à se dépasser encore plus, mais aussi pour comprendre comment ils sont capables de tels exploits. Parce qu'on parlait de sportifs et d'athlètes de haut niveau. Là, avec les champions paralympiques, on est, je sais pas comment dire, on est au maximum de tout. J'ai l'impression de l'exploit, du dépassement de soi, de la performance, et puis de la leçon de vie pour nous. Hein.
Alors, tout à fait. C'est déjà dans la compréhension des facteurs de la performance donc chez les athlètes handisport, c'est déjà au niveau physiologique, voir en fonction de l'âge, voilà, quel va être leur niveau de performance. Donc on peut voir qu'en fonction du handicap, de l'apprentissage justement, une question de réadaptation, on parlait tout à l'heure d'adaptation, mais voilà, que mon handicap soit inné ou acquis, si j'ai eu un accident à 30 ans, derrière, si j'ai envie de faire une activité physique, voilà, combien de temps je vais prendre pour justement me réadapter, pouvoir retrouver toute la justement être en possession de faire quelque chose, réaliser une activité. Donc c'est essayer de comprendre un petit peu les facteurs de la perf. Donc il y a l'âge, voilà, savoir si le handicap est inné acquis et comment on va progresser. Ensuite, il y a la technologie qui a forcément un rôle prépondérant. Et moi, en ce moment, j'analyse un petit peu donc, les performances en athlétisme. Et on peut voir, par exemple, qu'on différencie tout à fait donc, les athlètes qui sont debout ou qui vont avoir une prothèse et les athlètes qui sont en fauteuil. Parce que voilà, c'est pas du tout les mêmes disciplines. Et généralement, les athlètes qui sont en fauteuil sont des athlètes, quoi, des personnes en situation de handicap, on va dire, qui l'ont acquis. Alors, généralement. Donc il y a quelques petites différences, mais c'est très très intéressant, et savoir jusqu'où ils vont pouvoir aller. Voilà. Et justement, analyser ça, c'est-à-dire que quel va être l'apport justement de la prothèse, du fauteuil sur la performance par rapport à un athlète valide, et voir si un jour, peut-être, les athlètes handisport pourront battre les records des athlètes valides.
Oui, justement, parce que c'est ce qui était en question. On se souvient évidemment d'Oscar Pistorius et d'autres aussi. Enfin, c'est ce qui est en question aujourd'hui avec ces athlètes. Enfin, jusqu'où on reste un homme, jusqu'où on est suréquipé, jusqu'où on est un athlète presque parfait, justement. Et en même temps, quand on voit ces Jeux paralympiques, on est complètement saisi. Enfin, là, du coup, ils nous embarquent complètement, et pourtant, on a peu de données sur ces sports-là.
Oui. Le cas d'Oscar Pistorius a été très, très débattu, parce que, bon, voilà, un athlète paralympique qui est justement sur le 400 mètres avec des athlètes valides, c'était du jamais vu, et donc ça a fait énormément débattre la communauté scientifique, mais également les fédérations, sur l'apport des lames, justement, par rapport valide. Et on a pu voir finalement que bon, bah, sur 400 mètres, c'était encore assez limité par rapport aux athlètes valides. Mais c'est vrai que par exemple, si on prend le saut en longueur, aujourd'hui donc le record du monde chez les valides, donc c'est Mike Powell qui était en 91 en 8m95. Aujourd'hui, Marcus Rehm, il est en 8m48. Donc il est plus si loin que ça. Donc c'est un athlète avec une lame, mais bon, il y a encore une distance. Mais le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un investissement qui est beaucoup plus important chez les valides que chez les athlètes paralympiques. Et donc, cette masse d'athlètes derrière...
Un investissement
derrière,
humain déjà, et économique.
Économique également.
Bien sûr.
Voilà, et on a beaucoup plus d'athlètes aujourd'hui valides alors que d'athlètes, on va dire, paralympiques. Voilà, et aujourd'hui, il y a une question justement sur, pour 2024, Paris 2024, essayer d'identifier pour aujourd'hui des athlètes paralympiques français, voilà, qui seraient en mesure justement de performer au jeu. Le seul souci aujourd'hui, c'est que bah, il faut une reconnaissance, il va falloir investir pour montrer que voilà, le sport paralympique a toute sa place en rapport à celui des valides.
Ouais. Et pour offrir un sacré spectacle autour de la question comment le sport peut ouvrir le champ des possibles, avec dérision et même avec humour noir, extrait musical de la série télévisée Vestiaire, quand les acteurs sportifs, handicapés, chantent à leur manière l'hymne des Jeux paralympiques. Accrochez-vous à vos fauteuils.
Ici le mont Olympe a une rampe, et les dieux du stade des prothèses. Nous les athlètes d'une autre trempe,
nous allons vous faire décoller.
Peut-être en carbone, mais nos médailles sont
des Jeux paralympiques version vestiaire, la série télévisée de France 2 autour de la question comment le sport peut ouvrir le champ des possibles et nous inciter aussi à porter un autre regard, hein, Julien Shipman, sur tous les autres, moi j'ai envie de dire, dans le sport. Ça peut être aussi ça, alors qu'on pense à la performance, au meilleur, au culte de la performance. Le sport, c'est aussi ça.
Ah bah après, on parle souvent de sport pour tous, donc voilà, il n'y a pas forcément que le haut niveau. Alors nous, on a un regard, c'est vrai, en étant à l'INSEP, on s'intéresse qu'aux sportifs de haut niveau, mais c'est vrai que quand on s'intéresse aux sportifs de haut niveau, bah on voit leur maximum de capacité, mais qui vont être exactement, on va dire, un cran en dessous pour la population générale, pour tout le monde. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, le sport, c'est un vecteur de lien social, c'est pas que physique, c'est pas que physiologique.
Et s'intéresser aux athlètes de haut niveau, et comme vous le faites, de recueillir des données sur les athlètes paralympiques. Est-ce que c'est aussi parce que justement ils poussent au maximum les capacités, le potentiel humain, physique, psychique
Alors les athlètes de haut niveau, qu'ils soient valides ou paralympiques, voilà, ils sont au maximum des capacités. Voilà, on sait que bah, par exemple les valides, ils sont en liste depuis 1896 si on prend les Jeux Olympiques. Voilà, les Jeux Paralympiques c'est depuis 1960 à Rome. Bah, on sait que ces gens-là, bah, ils s'entraînent tous les jours, ils ont 10 000 heures d'activité physique au cours de leur carrière. Donc c'est quelque chose, voilà, aujourd'hui, au niveau de leur capacité physiologique, ils sont au max. Ouais,
Ils sont au max. Est-ce qu'on n'est pas justement arrivé aux limites? C'est une question qui se pose aujourd'hui, que vous posez dans cette exposition, dans ce catalogue aussi. Est-ce qu'on n'est pas arrivé aux limites du corps humain, aux limites des records que l'on peut battre, si ce n'est avec de la technologie ou avec de la psychologie du sport peut-être, autour de la question quelles limites, hein, quelles sont les limites du corps humain. Je propose un dernier éclairage aux limites justement, c'est celui du célèbre apnéiste Guillaume Néry, champion du monde d'apnée, qui était récemment notre invité pour la sortie de son film One Breath Around the World et de son livre À bout de souffle. On l'écoute sur la question des limites.
Dans l'apnée, il y a cette notion de limite, elle revient tout le temps. Aux racines de la discipline, les premières interrogations qui sont arrivées, c'est à quel moment le corps ne pourra plus supporter. L'arrêt de la respiration, la pression en grande profondeur, le corps médical et scientifique s'est énormément intéressé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'apnéiste qui, dans l'eau, a montré la voie finalement et a permis au monde médical et scientifique de découvrir de quoi le corps humain était capable, et non l'inverse. Alors aujourd'hui, plus personne ne s'aventure à donner un chiffre. À longue échelle de temps, difficile de se dire qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui sera capable de faire une seconde de plus ou de descendre un mètre plus bas. Donc, quand on part dans ce postulat, finalement, un jour, la limite, ce sera le fond des océans. Cependant, on se rend compte qu'avec l'évolution, là, les records peinent à tomber de plus en plus. Donc c'est vrai qu'on commence à se retrouver face à une forme de limite qui se dessine. Cependant, d'un point de vue mathématique, tout comme notre univers, on a l'impression qu'on ne peut pas définir une limite. Il ne peut pas exister un moment où on dit « voilà, là, on ne peut plus aller au-delà ». Donc ça, c'est fascinant, parce que ça ouvre la perspective sur une progression et une adaptation à l'infini.
Qui veut réagir à cet éclairage de Guillaume Néry, Julie Doron? Alors, limite de nos capacités, limite de nos records. Avons-nous atteint les limites ou est-ce que, comme le dit Guillaume Néry, on pourrait ouvrir, imaginer, aller encore plus loin, toujours plus loin?
Alors moi, cette question des limites, elle m'intéresse et je pense qu'elle est très dépendante aussi en fonction des sports, parce que la limite aussi, c'est aussi à certains moments comment je vais rester en vie, notamment dans sa discipline ou moi bien pour sûr. Avoir échangé, notamment avec Thomas Coville dans un sport comme la course au large. La question de toucher ses limites, c'est aussi la question de surfer avec les limites de sa propre vie. Donc là-dessus, il a aussi raison de dire qu'à un moment donné, oui, on touche le bout, mais si on est encore là, c'est qu'on ne les a pas encore touchés complètement.
Mais c'est ça, et jusqu'où on veut aller, voilà. Bien sûr.
Et donc moi, sur le versant psychologique, je ne participe pas trop au questionnement de comment, finalement, enfin, à quel stade on en est, etc. Mais ce qui m'a intéressée, c'est un peu la contribution que j'ai eue dans cet ouvrage, c'était de montrer aussi tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est associé à la maîtrise et au contrôle de soi.
Et qui permet de repousser voilà, justement les limites, c'est ça.
Je trouve que faire avec ses limites, c'est aussi bien. On est beaucoup dans une vision du dépassement. Mais
comment on fait dans nos limites dans et c'est très limites. Important et c'est essentiel, comme tout vous le disiez, pour la vie, mais aussi pour avoir un corps qui fonctionne ouais. toujours. Ouais. Comment rester dans ses limites ouais. C'est une autre philosophie, là.
Exactement. Et j'avais été vraiment... l'échange que j'ai pu avoir avec Thomas Coville et donc l'interview est dans l'ouvrage. Quand à un moment donné, il me dit il a dû renoncer à certains moments pour préserver son intégrité physique. Et savoir faire avec ses limites, c'est aussi pour moi une grande capacité. Et être en conscience de ses limites, c'est aussi une grande capacité. Donc je trouve
une grande
que,
force humaine, la force, voilà, elle est d'être là finalement.
Je trouve qu'elle est plutôt là.
Julia Schickmann, vous-même dans votre institut, on travaille pas mal sur la question de ses limites. Est-ce qu'on est en train d'atteindre nos records? Est-ce qu'il n'y a plus de la technologie ou un mental très fort qui nous permettrait de dépasser ses limites?
Quand on regarde les records du monde, donc depuis les Jeux de 1896, on peut voir qu'on a eu en gros 3650 records battus. Donc qui a été marqué par l'histoire, les deux grandes guerres, la guerre froide, donc là où il y a une augmentation des records. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis 2010, les records ne sont plus battus, ou très peu. En athlétisme, on voit que en gros, les deux tiers de toutes les disciplines en athlétisme ne progressent plus. Seulement quelques-unes, parfois. Et si on parle du marathon, on a le record du marathon qui a été battu l'année dernière en 2h1.39. Avant, c'était en 2014 par Kimeto. Mais voilà, on se pose la question de jusqu'où on peut aller, par exemple. Est-ce qu'on peut un jour aller sous les 2 heures au marathon? Alors peut-être qu'on pourra y aller, peut-être que la personne qui fera sous les 2 heures n'est pas encore née, mais c'est vrai que physiologiquement, aujourd'hui, je crois qu'on atteint un plateau, voilà, on est vraiment à nos maxima. On
peut pas... Physiologiquement pour notre corps humain. Hein.
Voilà, que ce soit nos capacités, pas forcément physiologiques, mais voilà, sur nos capacités physiques, voilà, on est vraiment sur une forme de plateau. On voit, par exemple, on a sorti un article à notre institut, justement, qui s'est intéressé à la taille des populations, à l'espérance de vie, et également au record, et ben on peut voir que notre population ne grandit plus, voilà, on voit qu'on est à 1m80 pour les hommes, 1m75 pour les femmes. Notre espérance de vie n'augmente plus non plus. Et également, quand on regarde les records sportifs, on est sur une phase de stagnation. Donc, on aurait quand même tendance à dire que oui, on plafonne un petit peu en ce moment.
Ouais. Et que c'est finalement, là encore, le sport nous enseigne sur la vie, parce qu'on se retrouve dans une planète limitée, on est nous-mêmes des êtres humains qui sommes limités, et c'est comme ça. Et il faut peut-être accepter ça, c'est là-dessus que vous portez vos recherches Julie Doron.
Voilà, je crois qu'avoir conscience des limites et de s'adapter par rapport à ça, pour ne pas se mettre en danger, c'est aussi important. Enfin, si on a un message plus global, et je pense notamment à l'écologie actuellement, mais là je suis en train de dépasser.
Mais parce qu'effectivement, et c'est ça dont on se rend compte dans cette exposition et surtout dans ce catalogue corps et sport, c'est que finalement quand on traite de corps et de sport, et bien il y a des retombées pour nous tout le temps au niveau philosophique, au niveau quotidien dans nos vies, enfin ça peut nous inspirer, c'est vraiment des leçons de vie.
Moi ce que je trouve intéressant, c'est que le corps et le sport nous amènent de toute façon, c'est très ancré dans notre société, donc à traverser des thèmes, voire même à éclairer des thèmes qu'on n'éclaire pas peut-être dans la vie quotidienne ou dans le cadre du travail. Et notamment, il y a un chapitre aussi sur la question de la catégorisation homme-femme. C'est des choses que
absolument, dont on parle beaucoup. Absolument, la question du genre.
Voilà, oui. On en parle beaucoup dans notre société. Mais le sport a quand même mis en avant aussi ces aspects-là.
Et la singularité de certains, peu importe leur sexe ou leur genre.
Tout à fait. Donc, je trouve que le sport a au moins, je dirais, cet avantage de pouvoir traverser des thématiques très différentes et qui sont très proches des préoccupations de la société.
Merci infiniment, ça me paraît une belle conclusion. Julien, un mot de fin ou on s'arrête là-dessus?
On va essayer de mettre du positif et c'est vrai que au niveau de l'adaptation, on peut voir qu'on a un formidable outil d'adaptation et que moi, la seule question que je me pose aujourd'hui, c'est au niveau environnemental. Voilà, qu'est-ce qui va se passer par exemple aux Jeux de Tokyo en 2020 par rapport à la chaleur? Voilà, on voit qu'on a sur un réchauffement climatique. Donc au niveau environnemental, économique, il faut garder de l'espoir, je pense. Mais c'est vrai qu'on touche un petit peu aujourd'hui aux barrières dans tous les domaines.
Comment nous adapter à nos limites?
Il y a un fabuleux ouvrage qui s'appelle « L'homme peut-il s'adapter à lui-même ?» voilà, qui est sorti par notre professeur Jean-François Toussaint, qui l'a fait et qui parle très bien du sujet sur notre capacité d'adaptation.
Voilà, ouais. Jusqu'où irons-nous et saurons-nous enfin être sages et rester dans nos limites autour de la question? C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Alors, je n'ai pas cité le catalogue Corps et Sport, magnifique catalogue de cette exposition qui est publiée aux éditions de La Martinière et dont nous avons encore un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs et internautes, avis aux amateurs. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. Et si vous habitez loin d'ici, vous avez encore vos chances de le recevoir. Je vous dis merci, Julie Doron. Merci, Julien Schickmann, d'être venu en direct avec nous. Et je vous donne rendez-vous demain, amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation et Tania Tsikouna sans coulisses pour nous intéresser cette fois-ci à la première grande bibliothèque universelle des logiciels autour de la question comment partager nos logiciels en toute liberté. Piste de réponse en commun demain. Merci de votre fidélité et de votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, dans une minute, ce sera l'heure d'un prochain journal.